Europe 1, 15h-16h,
Samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous, merci de votre présence. Voici Samedi en France, c'est une émission qui, je vous le rappelle, vous incite à visiter des lieux qui méritent votre attention. Alors aujourd'hui, on vous présentera 4 sites répartis sur 4 régions différentes, important ça, hein, et qui présentent des qualités très variées. D'abord un château fort, en devenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire en devenir pour un château fort? Vous allez voir. On vous présentera ensuite une ville qui vient d'être classée au patrimoine de l'UNESCO. Et ensuite, nous vous présenterons une villa, alors, d'une modernité qui a traversé toutes les modes. Rendez-vous compte, elle date de 1930 et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a été construite la semaine dernière. On vous montrera aussi un cabanon, pas loin de là, signé d'un des plus grands architectes au monde. Et enfin, on vous présentera aussi une balade à thème le long des côtes d'Armor. Et on fera tout cela avec un chasseur de sites. Alors vous savez, il y a des chasseurs de primes, il y a des chasseurs de dot, et puis il y a des chasseurs de sites. Lui, ça tombe bien, il est co-auteur de nombreux guides du routard, et d'ailleurs il continue. Ce promeneur infatigable s'appelle Gavin Clemente Ruiz. Bonjour Gavin.
Bonjour William, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour notre escapade hebdomadaire sur Europe 1.
Alors on commence avec un site, alors on l'a mis dans la catégorie insolite, vous allez me dire si je me trompe ou pas. C'est un château fort qui date du XXe siècle. Alors, ça peut être un paradoxe, mais vous avez bien entendu, 20e siècle. D'abord, on va situer ce bâtiment, c'est à Guédelon, c'est-à-dire, Guédelon, c'est où?
Eh bien, Guédelon, c'est situé très précisément dans le département de l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté. On est à 50 minutes à peu près de route au sud-ouest d'Auxerre et à 5 minutes au sud de Saint-Fargeau.
Bon, ça c'est très précis. Là, il y a un château fort, donc, que l'on a commencé à construire en 1997. Mais je disais, c'est un paradoxe, parce que comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui un château fort? Qui fait ça et pourquoi?
Ben c'est ça que j'aime bien. C'est le défi d'un homme qui s'appelle Michel Guyot. C'est toujours un fan de château. Et il a fait ça avec plusieurs passionnés comme lui. Et son idée est encore plus folle que vous ne le pensez, William. Il a voulu construire un château fort, mais uniquement avec les techniques qui existaient à l'époque de Philippe Auguste, c'est-à-dire au XIIIe siècle.
Mais je suppose qu'ils ont fait des calculs, ils ont anticipé. Ça doit prendre un temps fou, rendez compte. Ils en sont où? Et bien justement, on le saura tout à l'heure, vous allez voir, ça monte, mais ça monte doucement. Hein. Donc vous nous dites que c'est en plein cœur de la Bourgogne. On construit en ce moment une sorte de... C'est une forteresse, hein, sans utiliser, je ne sais pas, par exemple des grues, quoi, pas avec les instruments d'aujourd'hui.
Non. Aucun instrument d'aujourd'hui, c'est ça qui est bien, ce serait trop facile. Michel Guyot, avec ses compagnons, ils ont cherché à savoir comment et surtout avec quoi on construisait à l'époque. Ils ont reproduit les outils d'autrefois et la grue, alors William, il y en a une, rassurez-vous, qui transporte les pierres. C'est la copie conforme, non pas des grues d'aujourd'hui avec un moteur, hein, mais de celles qu'on utilisait au Moyen-Âge avec une cage d'écureuil pour l'actionner.
Ah oui, cache d'écureuil, ça veut dire qu'ils pédalent.
C'est ça, presque.
Ouais. Ils font tourner une sorte de roue, et plus la roue tourne, plus on monte les... Ah oui, d'accord.
Et la devise du château, c'est construire pour comprendre, ça j'aime bien.
Mais il pourrait y avoir, je ne sais pas, une devise ou un slogan, on dit Guédelon, pas Guédelon.
On dit Guédelon.
C'est une sorte de livre d'histoire à ciel ouvert, ça?
Exactement
va
Exactement ça, c'est ça. Et c'est un vrai voyage dans le passé qu'on va faire quand on va aller là-bas. Et ils utilisent toutes les ressources locales aussi, le bois de la forêt, le sable, la pierre, l'eau, c'est vraiment passionnant.
Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus maintenant. Nous avons en ligne Florian Renucci, qui est maître d'œuvre, présent au château depuis le début. Hein. Bonjour Florian.
Bonjour, bonjour William, bonjour.
Bonjour.
Alors, en ce moment, quand on arrive devant le château, imaginez ça, là nous sommes Gavin, c'est moi, avec toute l'équipe de l'émission. Qu'est-ce qu'on voit? Où en êtes-vous?
Après 23 saisons, puisqu'on commence à construire le château en 1998, on s'est calé dans un contexte vraisemblable, on dit qu'on est en 1229, et à chaque fois qu'on prend un an dans notre histoire en vrai, ben on prend un an de notre fiction, donc là on est en 1252, donc on suit l'évolution de l'architecture, et aujourd'hui ben on voit quasiment déjà un château, hein. Ce serait un château historique, ce serait déjà un château important, donc on a quand même bien travaillé depuis toutes ces années.
Alors justement, je me suis demandé, quand je vois les photos du château, je me suis dit, est-ce qu'ils font exprès de construire à la même vitesse qu'à l'époque où vous allez un tout petit peu moins vite ou un tout petit peu plus vite? Est-ce que là, au bout d'un an, eux, à l'époque, ils en étaient là aussi.
Alors nous, c'est un chantier d'archéologie expérimental, c'est-à-dire que l'on va essayer de se mettre dans les pas des bâtisseurs en transformant les matériaux et les gisements du site. On est sur une carrière de grès ferrugineux, ce qui fait que les visiteurs voient en permanence sur le chantier, qui fait à peu près 15 hectares, la transformation résonnée à la main, avec des outils qu'on a identifiés comme étant utilisés au XIIIe siècle, d'accord. Eh bien, la transformation des blocs de pierre en matériaux pour les maçons. On cuit la chaux, on a de l'argile sur le site, ce qui fait que les visiteurs nous voient en train de, dans des fosses à argile, en train de mouler des tuiles, des carottes pavement, puis les cuire au feu de bois. Oui. En fait, toutes les transformations, y compris par cuisson, sont faites devant les visiteurs et donnent un château,
oui.
In fine.
Mais vous le faites à la mesure de ceux qui le construisaient à l'époque, où vous êtes peut-être moins nombreux qu'à l'époque. Par exemple, un château comme ça, Guédelon, ça aurait pu être construit en combien de temps à l'époque, en 1200 et quelques ?
Alors comme nous, on communique aux visiteurs nos informations, puisque c'est la raison d'être du chantier, de faire vivre une tradition orale tout en travaillant. On va dire qu'on a deux métiers en un, et donc on est grosso modo peut-être deux fois plus lent que serait la même équipe au Moyen-Âge. Ça nous démontre une chose, c'est qu'on est 35 quasiment à construire. Mm. Bah, ça veut dire qu'une petite équipe de 35, si le château est complètement terminé sur 30 ans à Guédelon, bah, ça veut dire que la même équipe, 35 personnes peuvent construire le même château facilement en 15 ans. Donc c'est une manière de répondre aux questions qu'on se pose quand on est devant Carcassonne, devant des châteaux du Moyen-Âge.
C'est
pas des milliers de personnes.
Non, bien sûr. Qui finance d'ailleurs ?
Ce sont les visiteurs, car l'idée, c'est de que ce chantier soit un site culturel touristique qui permet entièrement, depuis quasiment la deuxième année d'ouverture, donc depuis l'année 2000, en fonds propres, de porter. Il y a 75 contrats de salaire et une majorité de CDI. Donc c'est aussi un projet de développement local qui a donné l'emploi dans cette région qui était au départ pas très très touristique.
Bien sûr. Vous avez fait appel, je suppose, à des spécialistes des châteaux.
Bien sûr, toute la documentation nous est donnée par des archéologues, des castellologues qui sont devenus des amis, des archéologues du bâti, voilà, castellologues, hein, qui s'intéresse aux formes et qui analyse. Alors Nicolas Fauchère, par exemple, est un des spécialistes de la fortification en France. Donc on a calé avec eux le programme, mais après les archéologues n'ont pas de réponse sur la productivité. En combien de temps une pierre peut être taillée, un mètre cube de pierre, en combien de temps est-il extrait ? Et c'est là où l'archéologie expérimentale répond et donne du quantitatif, donne du temps, donne des protocoles, la mise en charge de voûte à croisée d'ogives, c'est aussi des réponses aux questions que nous livre l'histoire.
Bien sûr, et donc ça peut être certifié conforme au fur et à mesure. Bravo, c'est du bon boulot. Merci de ces explications, Florian. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'on peut venir participer ? Parce qu'il parle beaucoup des gens qui visitent.
Exactement.
Parce que c'est fait aussi pour eux, la tradition orale. Il a dit, je suis en train de tailler une pierre, mais je vous explique comment je fais. Alors, on peut participer.
Exactement, on peut venir comme simple visiteur pour observer le travail qui est réalisé en ce moment à Guédelon. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on peut participer aussi à la construction. Alors, il y a des ateliers pour les enfants pour comprendre. Oui. Et puis, si vous êtes adulte, même si vous êtes novice, vous pouvez suivre un stage et aider tous ces œuvriers, comme ils disent, pour les aider à construire le château.
C'est comme un ticket, un billet d'entrée, ça coûte...
Eh ben, on peut payer sa formation, hein, c'est une formation, d'accord. Donc on participe et puis ensuite on aide et on est content de voir son
visite
résultat.
Là, parce que quand on voit les photos, il a déjà bien avancé ce chantier. Hein.
Ouais,
combien de temps il faut pour
Il faut environ 4 heures, hein, vraiment. Si vous voulez apprécier toutes les explications qui sont fournies par les artisans, hein, comme on l'a entendu, qui travaillent sur place, c'est ouvert jusqu'au mois de novembre et c'est fermé les mardis et mercredis en septembre. Mmh. Les tarifs, 15 euros pour un adulte, pour faire la simple visite, hein, et 12 euros entre 5 et 17 ans, et c'est moins cher, bien sûr, si vous réservez en ligne sur le site du château de Guédelon.
Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, vous retrouverez toutes les infos sur europe1.fr. Est-ce qu'il y a une adresse pour dormir dans le coin ? Parce que dans cette émission, non seulement on vous explique quel est le site qu'on souhaiterait que vous visitiez, mais comment on peut faire pour y aller, et si on peut y résider, si on peut y déjeuner ou dîner.
J'ai trouvé une petite adresse pour vous, William. Ça s'appelle le Moulin Grenon, France est à Mézilles. On est à 16 minutes au nord de Guédelon. Et là, on va dormir dans un vieux moulin perdu sous la végétation. C'est vraiment très beau, très romantique. On est au cœur de la campagne de Lyon. Il y a le petit cours d'eau comme ça qui glougloute juste à côté. C'est délicieux. 70 euros pour la nuit pour deux personnes.
D'accord. Et puis, vous pouvez consulter tous les réseaux sociaux, bien sûr. Dans un instant, vous découvrirez ou redécouvrirez une ville qui vient de recevoir une sorte de prix puisqu'elle a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit de Vichy. Alors bien sûr, Vichy, beaucoup plus connu, hélas, pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale que pour son architecture. Et c'est bien dommage. Et on va vous dire pourquoi.
BMW. Quand vous découvrirez qu'en ce moment, la BMW série 1 édition M-Design est à partir de 295 euros par mois, avec ses lignes sportives, sa caméra de recul, son GPS grand écran et sa connectivité pour smartphone, vous réaliserez que la seule chose qui lui manque, c'est vous. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur bmw.fr.
Exemple pour une BMW 1 saisie édition M-Design avec majoration du premier loyer de 2600 euros. Offre LLD 36 mois 30 000 km réservée aux particuliers et valable jusqu'au 30 septembre. Si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Oui, vous écoutez Samedi en France, émission où l'on prend le temps de découvrir des sites qui méritent votre curiosité. En tête du convoi, devant la Gavins Clemente Ruiz, routard infatigable. Avec lui, nous allons essayer de vous surprendre avec des sites dont on ne connaît pas, notre avis, hein, dont on ne connaît pas suffisamment l'originalité ou l'histoire. Par exemple, la ville de Vichy, connue seulement pour son rôle qui a été imposé, je vous le rappelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle vient d'être classée par l'UNESCO. C'est pas rien. Et cette ville, Gavin, ça a pourtant bien des choses à raconter, non ?
Exactement. C'est très, très riche. Vichy, l'Auvergne, on est dans l'Allier et on vend plus souvent son eau, ses pastilles, ses carottes, ses motifs à carreaux, sa triste période de l'histoire, vous l'avez dit, plutôt que son architecture. Et pourtant, cette ville, c'est un petit bijou. C'est une ville d'eau, bien sûr, mais aussi une ville avec des villas, il y a des chalets, il y a des maisons anglaises avec les bow windows, vous savez, qui se relèvent comme ça, si typique de l'Angleterre. Il y a des chalets suisses aussi, des palaces, un hippodrome et même un opéra qui est le deuxième en taille après l'Opéra Garnier de Paris.
À l'origine, qu'est-ce qui a rendu Vichy si célèbre finalement ?
Et ben, à l'origine, c'est les sources d'eau aux vertus miraculeuses, disait-on, déjà en vogue à l'époque des Romains, c'est vous dire. Mais surtout, c'est grâce à Napoléon III que Vichy a connu sa beauté. C'est au 19e siècle que Vichy va voir sa cote grimper. L'empereur a l'habitude de venir ici à Vichy en villégiature et pour son propre confort et celui de sa cour, il va transformer radicalement la ville.
Oui, mais ça reste quand même une ville thermale, mais comment dire, elle devient un peu plus chic, quoi, parce qu'il y a l'empereur. Mais il avait déjà fait ça pour Biarritz, me semble-t-il.
Exactement. Et puis, Napoléon III transforme Vichy pour rivaliser aussi avec les grandes villes thermales d'eau européennes, comme Baden-Baden, Marienbad, Bath. C'est d'ailleurs à ce titre que Vichy a été classé à l'UNESCO avec 10 autres villes thermales en Europe cet été.
Ah, d'accord. Donc, Napoléon III voulait prouver à son époque qu'on avait là l'une des plus belles villes thermales d'Europe. Il ne s'est pas trompé.
Ben oui, et puis il a tout fait pour ça, hein, vous allez voir. Et c'est au 19e siècle, donc il a transformé la ville littéralement. Il a créé, c'est là que les grands lieux emblématiques de la ville vont naître, tout
et
simplement.
Lieu emblématique, juste un mot là, si je devais en voir qu'un seul, bien sûr, c'est pas prévu comme ça. Lequel vous conseilleriez-vous ?
Bah, l'opéra. Je pense que c'est la beauté de cette ville. Un petit bijouar nouveau. Il y a de l'ivoire, il y a des fleurs. Il y a une belle salle à l'italienne avec 1400 places pour vous accueillir. Il y a des cariatides en façade. Il y a une coupole intérieure qui est vraiment magistrale. Imaginez, l'Opéra de Paris, à son inauguration, est le plus grand opéra de France après l'Opéra Garnier de Paris. Et c'est toujours un lieu artistique très très vivant. Il y a plein de spectacles.
Alors, il y en a d'autres, bien sûr. On va en reparler. Mais pour l'instant, nous avons en ligne Fabienne Gelin, qui est responsable des fonds patrimoniaux de la ville de Vichy. Bonjour, Fabienne.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça change d'être désormais inscrit à l'UNESCO ? C'est chic comme tout, hein ?
Oui, c'est chic, certes, mais c'est aussi, bien sûr, une reconnaissance nationale et internationale. Ouais. Ça touche un petit peu tout le monde, aussi bien la population locale. On l'a vu depuis quelques années que la candidature se préparait. Les yeux des Vichysois se sont ouverts sur leur ville, sur leur patrimoine. Et puis, c'est évidemment un prestige international. Ouais. Et c'est aussi beaucoup de pression pour se maintenir ensuite au niveau et continuer à faire vivre ce patrimoine.
Ah oui, parce qu'après, ça se mérite hein, d'être inscrite au patrimoine. Parce que ça, du coup, vous allez être connue dans le monde entier pour de bonnes raisons. Ça permet aussi de réhabiliter Vichy parce qu'elle hélas, elle a un passé qu'on n'a jamais oublié.
C'est vrai, effectivement non l'occasion. Oui, c'est effectivement l'occasion de rappeler que l'histoire de la ville de Vichy, ce n'est pas simplement ces 4 ans qui, comme vous le disiez, nous ont été imposés, mais c'est 2000 ans d'histoire, puisque la ville était déjà connue depuis les Gallo-Romains. Donc
c'est... Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs quartiers, on vient d'en parler à l'instant, donc plusieurs ambiances. À votre avis, quels sont les principaux à visiter ? On va se mettre dans la peau d'un futur touriste.
Très difficile. Alors, je suis aussi d'accord avec vous sur l'opéra de Vichy qu'il ne faut absolument pas manquer. Ouais, mais la particularité de Vichy, c'est aussi ses espaces verts. C'est une ville-parc. Le paysage, très souvent dans chez nos comparses de la candidature, les 10 autres villes, il y a un paysage qui est autour de la ville. À Vichy, le parc, le paysage est dans la ville. Il y a des espaces verts vraiment partout.
C'est pour les...
Qui ont des caractères très différents.
C'est pour les curistes à l'époque, parce qu'en dehors de boire des verres d'eau, il fallait bien faire quelque chose. Alors, ils se promenaient.
C'est ça. Et l'exercice est recommandé par les médecins en complément de la cure, donc c'est important. Donc, et puis, il y a des ambiances différentes dans les parcs. Le parc des sources est un parc avant tout mondain, qui relie les sources les unes aux autres. Le parc qu'on appelle aujourd'hui le parc Napoléon, qui est créé après l'endiguement de la rivière, lui, c'est un parc à l'anglaise, beaucoup plus romantique. Mm-hmm. Et puis, dans les années 60, il y a une reconversion de la ville, en tout cas une diversification de ses activités économiques. Et le maire de l'époque, Pierre Coulon, fait créer un grand centre omnisport, qui est un parc dans lequel est disséminé les installations sportives. Donc des caractères très différents, mais une ville-parc à découvrir tout autour du lac d'Allier aussi. Ça, c'est important. Il y a maintenant une possibilité de pérégrination à pied, à vélo, en patin roulette sur les rives de l'Allier.
Alors, on m'a parlé aussi de l'église Saint-Blaise, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, elle ?
Alors, elle est assez extraordinaire. C'est une église qui est adossée sur l'ancienne église de la vieille ville de Vichy et qui a été construite dans les années 30, donc dans le style art déco pur jus, avec une architecture un peu rigide et du béton apparent en extérieur qui surprend. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, la particularité, c'est qu'il y a un décor qui avait été confié aux frères Mauméjean qui sont chargés à la fois des vitraux, des mosaïques et des peintures avec une iconographie très riche et très homogène, y compris jusqu'aux luminaires qui sont dans le même style. Et c'est au contraire très lumineux, très coloré à l'intérieur. Donc vraiment un des plus beaux exemples d'architecture religieuse de cette époque.
Et si on veut visiter tout ça, prendre son temps, et éventuellement, il faut y rester, à votre avis, quoi, au moins une journée entière, ou si c'est une nuit, c'est encore mieux.
Ah oui, il faut un bon week-end, c'est
voilà,
mieux.
Bon week-end, d'accord.
Prendre, oui, et prendre le faire. Temps d'aller écouter quelque chose à l'opéra.
Parfait, merci beaucoup Fabienne. Bonne chance.
Mais je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Alors Gavin, est-ce qu'il y a d'autres lieux emblématiques à Vichy qu'il ne faut pas manquer ?
Bon, on va compléter la visite et on va aller faire une petite balade à pied. Alors là, je vous emmène sur le boulevard de Russie et la rue de Belgique. Pourquoi ? Parce que c'est un résumé en quelque sorte assez extravagant de toute l'architecture de ces années. Il y a un mélange de styles qui va de l'art médiéval, et oui, jusqu'à l'art nouveau. Il y a la Villa Vénitienne que j'aime beaucoup avec sa loggia, ses balcons, ses lions de Saint-Marc, avec la pierre rouge et blanche. On se croirait presque le long du Grand Canal à Venise. Ça vaut vraiment le coup d'œil.
Oui, mais il y a une chose qui est remarquable aussi, ce sont les établissements des thermes. Je les trouve très beaux.
C'est
aussi.
Beau aussi. Hein.
C'est une belle architecture.
C'est vraiment beau.
Elle est impeccable. Hein.
On en prend plein les yeux. C'est vraiment très agréable. C'est pas qu'une ville thermale, en fait. C'est vraiment une ville où on prend le temps. On l'a vu, on peut aller se promener dans les parcs, dans la ville, pas besoin de sortir. C'est vraiment un moment, une petite escapade. Et surtout, c'est comme si vous étiez dans une bulle pendant tout le séjour à Vichy.
D'accord, on voit bien que c'est pas seulement une ville thermale, parce que là je parle des thermes, mais est-ce que vous aurez une adresse pour dormir alors ?
Bah bien sûr, vous me connaissez. L'Aleti Palace Hotel. L'Aleti.
Ça me dit quelque chose, non là ?
Ça vous dit quelque chose ? C'était
le
nom ?
Si, il a construit des hôtels en Afrique du Nord aussi.
Oui, et puis aussi, il a construit le Negresco, c'était l'ancien propriétaire du Negresco.
Oui.
Et vous allez voir, ça rappelle quelque chose, il y a un petit air hein, quand même, il y a un air de famille, on va dire, avec ce Palace Belle Époque. L'Aleti Palace Hotel, il y a une belle façade, il y a des balcons, il y a des frises, il y a le lustre en cristal, il y a la porte tambour qui vous accueille, tout y est. Mais vous allez me dire, palace, ça coûte cher.
C'est ça que je devais dire, moi.
Ouais,
ça coûte cher.
vous êtes trop fort, William. Ouais. Eh bien non, William, un palace, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est 120 euros pour deux.
Ça va,
c'est correct. Si vous voulez vous faire un petit plaisir à la fin du séjour, à la fin de la cure, pourquoi pas. Et puis pour un week-end en amoureux, pour aller à l'église Saint-Blaise, bref, vous pouvez passer un très bon moment à Vichy.
Non, il y a de quoi faire.
Europe 1, 15h-16h.
Samedi en France.
William Lémergie.
Dans un petit instant, nous allons retrouver Jean-Pierre Foucault au micro de Daniel Moreau. Il vous parlera de son enfance passée à Marseille. Mais juste avant, on vous propose de visiter ce qui était un atelier d'artiste et qui a été construit dans les années 30. Notre guide, toujours Gavin Clemente Ruiz, grand spécialiste de tous les sites intéressants et pas assez connus de l'Hexagone. Je le précise chaque samedi parce que sinon, évidemment, on vous parlerait du Puy du Fou et de Chambord. Sauf que ça, vous connaissez un peu. Mais ce dont on va vous parler maintenant, peut-être moins, on est là pour ça. On vous propose de découvrir tout de suite une villa sur les bords de mer avec un cabanon, mais le mot est faible, hein, un cabanon à côté, signé d'un grand architecte. Alors, de quoi s'agit-il avec cet ensemble ?
Alors, je vous emmène à Roquebrune-Cap-Martin. C'est pile poil entre Monaco et Menton, sur le front de mer. Il y a la mer juste devant vous. On va aller visiter la villa E1027.
Vous êtes sûr que ça s'appelle comme ça ? Pardonnez-moi, mais c'est pas très glamour.
Non, c'est pas très glamour. C'est un nom de code très mathématique qui fait référence aux deux prénoms des constructeurs qui étaient un couple à la ville, comme dans le travail. D'un côté, j'ai Hélène Gray.
Ah, d'où le E.
Exactement. D'accord. Une artiste parisienne touche à tout des années 1920, spécialiste de la laque notamment. Elle faisait ça dans sa salle de bain à Paris. Et son compagnon, de l'autre côté, Jacques Badovici.
Alors, qu'est-ce qu'elle a si particulier, cette villa ? J'ai une photo, c'est magnifique, quoi. Bah, c'est typiquement d'époque, mais j'ai l'impression qu'on pourrait en construire une comme ça, là, il y a deux jours.
Eh ben, c'est ça qui est bien. Déjà, ce qu'elle a de bien, cette villa, c'est qu'elle vient de réouvrir après trois ans de travaux.
Ah oui, mais c'est peut-être pour ça qu'elle fait si neuf. Ah oui, d'accord,
non,
je comprends.
C'est vraiment, ils ont reproduit à l'identique. Il n'y a pas de souci, ça n'a pas été ripolliné pour l'occasion. Cette maison, c'est un manifeste en quelque sorte, William. C'est un manifeste d'une architecture en vogue dans les années 1930. Alors, vous dites qu'elle ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui. En effet, c'est du modernisme. Alors, c'est quoi le modernisme ? On s'opposait au début du XXe siècle à toutes ces maisons un peu poussiéreuses aux intérieurs, un peu recroquevillées sur même avec plein de meubles.
Oui, qui ressemblait un peu à des gâteaux.
C'est ça, exactement.
Tandis que ça, c'est d'une pureté.
On est dans la pureté, on est dans le minimalisme. C'est simple, c'est blanc. Là, si on voulait décrire à nos auditeurs, on dirait que c'est...
On est là pour ça, d'ailleurs.
C'est un gros cube blanc, en quelque sorte, en béton, tout blanc, avec des auvents bleus, juste comme ça, avec la vue sur la mer.
Et puis, une bouée, ça ressemble un peu, presque, à un paquebot, un peu rigoureux, comme ça. Elle a été construite en quelle année ?
Eh ben, la construction a commencé en 1926, ça a duré 3 ans. Alors l'endroit n'est pas facile d'accès, c'est très escarpé, c'est sur des rochers, on est carrément au bord de l'eau. Il y a les vagues de la mer Méditerranée qui viennent comme ça s'écraser juste là au pied des rochers. En dessous de la villa, c'est un très très beau site à apprécier.
Et qu'est-ce qu'on y trouve là ? Dedans, je dis.
Alors, on rentre dans la villa et là, vous allez être surpris tout d'abord par la forme des pièces. On cherche la lumière dans cette villa, c'est la rentabilité de l'espace qui est visée. On cherche aussi à tout ranger dans un minimum de place. Alors, c'est pas très grand, mais la lumière et les lignes droites créent des formes géométriques très intéressantes dans la villa E1027.
Oui, c'est ça. C'est ce goût et cette invention pour un minimum d'espace, mais avec un maximum de choses que l'on peut ranger dans cet espace.
C'est ça.
Ils ont inventé plein de trucs.
Ils ont inventé plein de choses, ils ont inventé plein de meubles. Hélène Gray, c'était une artiste touche à tout. Il y a des meubles que vous allez voir sur place qui étaient très novateurs pour l'époque et qu'ils restent encore aujourd'hui. Elle a inventé, par exemple, un fauteuil transat que vous verrez dans la villa, inspiré. Alors là, c'est là qu'on retrouve l'esprit des paquebots.
Oui, paquebots. Exactement. Oui. D'où la bouée à l'extérieur.
Exactement.
Bien sûr.
On part pour partir en mer. Elle voulait que ces meubles soient légers pour qu'ils passent facilement d'une pièce à l'autre, comme aujourd'hui, très fonctionnel. Il y a la tête de lit aussi, avec un petit qui inclut le placard à oreiller, que j'aime bien. Dans les grandes enseignes aujourd'hui de meubles, on voit des modèles comme ça, on trouve ça normal.
Oui, je pense à une grande enseigne un peu suédoise.
Un peu suédoise, ça commence par Paris, ça finit par A. Et c'est devenu très classique, mais on se dit que ces meubles, ils ont été créés au début du 20e siècle. C'est ça qui me paraît révolutionnaire et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui d'évoquer.
Alors, nous sommes en ligne, justement, avec Antide Vian, administrateur des monuments nationaux. Bonjour Antide.
Bonjour.
Alors, sur le site de la villa que l'on vient de décrire, il y a aussi des cabanons construits, s'il vous plaît, par Le Corbusier. Au même moment ?
Non. En fait, ce site-là, c'est à la fois une aventure architecturale et une aventure humaine. Le Corbusier commence à fréquenter la villa construite par Hélène Gray et Jean Badovici environ 1938-39. Mmh. Il y séjourne, d'ailleurs il y peint sur les murs. Il y réalisera 2 puis 5 peintures murales ces 2 années. Et puis, parallèlement, 1948-49, oui. C'est un plombier, quelqu'un qui n'est pas du tout architecte, qui construit au départ une cabane de pêcheurs, puis rapidement il se ravise et il en fait une petite guinguette, un bar-restaurant qui s'appellera l'Étoile de Mer, que fréquentera Le Corbusier, puisque Le Corbusier a loué la villa en 1948-49. Ouais. Et vous avez dit que le site était difficile d'accès, c'était aussi la volonté hein, des différents occupants.
Et oui, pour ne pas être dérangé,
Exactement, exactement. Mais on a le train, il y avait une voie ferrée qui passe toujours d'ailleurs et qui desservait toutes ces villas construites à la belle époque sur le Cap Martin. Donc Le Corbusier va prendre ses repas à l'Étoile de Mer, il sympathise avec le propriétaire qui accepte de lui céder un terrain mitoyen sur lequel il construira le cabanon. Alors le cabanon, c'est une toute petite structure, c'est une sorte de résumé de l'œuvre de Le Corbusier qui est capable de très grandes choses. Il a dessiné des plans de ville complets, c'était un urbaniste également, et il a fait une petite structure de 3,66 m qui était son château sur un terrain qu'il aimait particulièrement.
Mais il y habitait de temps en temps, le cabanon ?
Saisonnièrement, il y venait l'été, il y venait un petit peu à Noël, mais c'est tout petit. Il faut le concevoir comme une extension de l'Étoile de Mer. Hein. Il était très proche des
mais
propriétaires.
Il a quelque chose de particulier où, bon, c'est un joli cabanon, puis basta, quoi. Non, mais c'est quand même signé Le Corbusier, mais ça suffit pour que ça soit beau.
On retrouve dedans tous les codes du travail de Le Corbusier, c'est-à-dire tout ce travail sur les proportions, sur ce qu'on appelle le modulor, hein, ce nombre d'or qui lui permet de définir les proportions dans son architecture. Ce modulor, il date de 1945, le cabanon, lui, de 1952. Donc, c'est une des premières mises en œuvre de ce modulor. Le Corbusier servira de tout ça dans les gros chantiers de la reconstruction d'après-guerre, notamment pour les unités d'habitation, que ce soit à Marseille ou à Rezé.
Mais je ne savais pas. Oui, pardon, non, je vous en prie. Je vous écoute, Antide.
Donc, il complète, il s'aperçoit très vite que ce petit cabanon, c'est un architecte. Hein, il travaille beaucoup. Le Corbusier, ce petit cabanon, est quand même un peu petit pour accueillir ses plans. Il se fait livrer en 1954 un petit préfabriqué à côté, alors qu'il ne porte pas vraiment sa patte. Et puis, en contrepartie du fait d'avoir obtenu ce terrain de Thomas Robutato, le propriétaire de l'Étoile de Mer, il lui construit sur le terrain de pétanque 5 unités de camping. C'est un petit bâtiment collectif, des petites unités à coller, tout petits appartements qui seront occupés jusque dans les années 80 par les vacanciers.
Ce qui est curieux, c'est que Le Corbusier architecte, ça on connaît, même si on n'a jamais été voir de près ses œuvres. Mais alors, les fresques et les peintures, je ne savais pas qu'il faisait ça aussi, et elles sont là encore aujourd'hui.
Elles sont là évidemment. Alors il y a évidemment les 7 peintures qui sont réalisées en 1938 et 1939 dans la villa.
Dans la villa au-dessus.
Certaines ont été dissimulées parce que l'objectif de cet énorme chantier de restauration qui a pris plusieurs années était de retrouver l'état de référence de 1929. Et ces peintures, elles avaient 10 ans de moins et elles étaient très visibles. Donc il fallait néanmoins en assurer la conservation. On n'allait pas repeindre sur les peintures de Le Corbusier. Évidemment, ce sont des œuvres à part entière et majeures. Donc, une a été dissimulée, les autres sont encore visibles, même si elles ne sont pas exactement dans l'esprit de la villa qu'avait souhaité l'ingré Jean Badovici.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Antide. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Je vous remercie. À vous également. À bientôt.
Au revoir. Bon, alors, puisque jamais on peut visiter ces lieux-là, bien sûr, à Escarpée, peu importe, l'endroit est tellement beau que ça vaut le coup de marcher un peu, quoi.
Exactement, jusqu'au 31 octobre, il y a 4 visites par jour, ça dure environ 2 heures. Alors la visite démarre à pied depuis la plage, il y a 90 marches à monter hein, quand même. Ouais. N'oubliez pas, c'est bon à savoir, ça coûte 18 euros pour les adultes, on peut acheter son billet en ligne, bien entendu. Et William, je vous conseille pour manger juste à côté une petite adresse, parce que ça creuse hein, quand même l'effort. Les deux frères, c'est à Roquebrune-Cap-Martin, dans une ancienne école, on se pose en terrasse et on se laisse salé. 23 euros à midi pour des tagliatelles, tomates et lieu noir pané.
Non, c'est ça qui est bien. Tagliatelles, tomates, oui, mais le lieu noir pané, ça c'est pas mal.
C'est pas mal.
Vous avez le détail sur tous les réseaux sociaux. À suivre maintenant dans Samedi en France, les confidences, comme on le fait chaque samedi désormais, d'une personnalité sur sa région de cœur, je dirais. Alors, on connaît l'amour de Jean-Pierre Foucault pour le sud de la France. Il va nous proposer de partir sur les traces de son enfance dans les collines et les calanques, c'est un peu notre pagnole d'aujourd'hui, et autour de Marseille, et c'est au micro de Daniel Moreau.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Jean-Pierre Foucault.
Bonjour Daniel Moreau.
J'ai envie que vous me plantiez tout de suite le décor de votre enfance dans le sud.
Quartier sud de Marseille. Il suffisait que de ma terrasse, je monte sur une chaise pour voir si ma mère était belle et si je pouvais aller me baigner. Le quartier du Lapin Blanc et de Bonneveine. Remarquez, c'est une chance inouïe d'habiter un quartier qui s'appelle Bonneveine, avoir de la chance. Eh bien, j'ai habité dans ce quartier de la chance jusqu'à mes 18 ans avant que je ne parte faire de la radio à Monte-Carlo.
Et alors, quand vous alliez vous balader autour de Marseille, c'était quoi les petites visites? Et comme ça, on va partager ça.
En fait, les vrais bonheurs, c'était le dimanche parce que j'étais scout. Hein, et vu mon physique, vous l'imaginez, j'étais chef de patrouille de Hirondelle à Tire-d'Aile.
Bah,
ça m'allait parfaitement. Ou ça m'allait toujours plus haut. Et nous partions à pied depuis Bonneveine, depuis le Lapin Blanc. On marchait pendant une petite heure pour aller jusqu'à Calelongue, qui est une des extrémités de Marseille. Pour nous, ce massif de Marseille Vert était un enchantement parce qu'il y avait tout. Il y avait la colline, il y avait des grottes, il y avait la mer, il y avait des calanques. Et chaque dimanche, on partait faire un secteur, entre guillemets, pour parler comme un militaire, du massif de Marseille Vert. Et c'était un véritable bonheur. Sac à dos, avec le pique-nique dans le dos, avec une gourde que l'on rafraîchissait dans la Méditerranée. Maintenant, certes, c'est un parc national et les visites sont régentées, mais je ne peux que conseiller à ceux qui nous écoutent d'aller, ce massif de Marseille Vert, c'est 10 000, 1 million, 1 milliard de richesses, que ce soit la colline, la mer, la montagne, le soleil ou la pluie, quelle que soit la météo, c'est un véritable bonheur. Et pour nous, on avait 10, 15 ans, c'était un bonheur que de partir comme ça à pied, à l'assaut du massif de Marseille Vert.
On entend souvent parler des calanques. C'est là que vous avez fait vos premiers, pas vos premiers pas, mais en tout cas vos premières brasses.
Les premières brasses, c'était les calanques. Quand on quitte Calelongue, qui est l'extrémité, je vous le disais, sud de Marseille, on part à travers un sentier. Et la première calanque, c'est la calanque de Marseille Vert. Et là, bien sûr, on plongeait depuis les rochers. En fait, on jouait les grands. Vous savez, quand on est petit, on est grand. Quand on est grand, on va être plus jeune. Enfin, la vie est mal fichue, quoi. Bon. Quand on était petit, on jouait les grands et on tirait des ponts de singes avec des lassos entre chaque extrémité des calanques pour traverser la calanque au-dessus des flots comme si nous étions des véritables héros de bandes dessinées ou de films d'aventure. Voilà, c'était ça les calanques de Marseille Vert. Et ensuite, un petit peu plus loin, il y avait Sornu, il y avait Morgiou, Sugiton. On n'avait pas le courage d'aller jusqu'à Cassis parce que c'est quand même un long chemin que de faire cette calanque. Mais disons que la première partie, de Calanque jusqu'à Sormiou, c'est un enchantement, c'est un bonheur. Et je pense qu'on a bien fait d'en faire un parc national pour protéger ce trésor, pour protéger ces trésors.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits sites comme ça que vous conseilleriez qui sont restés un petit peu...
Il y a un site qui pour moi, est toute ma jeunesse. Le parc Borély, il y a l'hippodrome de Marseille qui peut-être va déménager, va partir de là. C'est en bord de plage, un hippodrome en bord de plage, comme à Cagnes, sur mer, si vous voulez. Et ce parc Borély, c'était l'endroit où, depuis tout petit jusqu'à l'adolescence, on pouvait tout faire, du vélo, marcher. Il y avait une mare au canard, il y avait une roseraie pour ceux qui... il y a toujours, pour ceux qui s'intéressent aux plantes. Il y avait un musée d'égyptologie qui maintenant est un musée de la céramique. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que nous, gamins, le conservateur nous avait pris d'amitié, il nous montrait des momies secrètes qui étaient cachées dans les greniers de ce musée. Bref, il est là, ce musée. Maintenant, c'est un musée de la céramique, il est à visiter. Et devant le musée, des escaliers et un plan d'eau qui mènent au parc Borély, où là, tous les Marseillais qui connaissent un peu vont pouvoir passer un dimanche paisible. Et si vous venez à Marseille, venez dans ce parc Borély, c'est l'un des poumons de Marseille.
Mais écoutez, moi j'ai bronzé en vous écoutant, Jean-Pierre, alors je vous remercie beaucoup de cette visite. Merci et à bientôt.
À bientôt, Daniel.
Non, c'est vrai, elle a mis de la crème pendant qu'elle faisait cette interview.
Ah bah,
de la crème solaire.
Aller, là,
merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était la France de son enfance. Alors, deux remarques. Vous avez remarqué qu'à certains moments, il reprend l'accent. Quand il parle des quartiers, hop, ça repart. Et puis, autre remarque, c'est qu'il a longtemps, Jean-Pierre Foucault, travaillé ici même à Europe 1. Merci beaucoup, Daniel. À la semaine prochaine. Dans un instant, nous vous proposerons un site de plein air. Là aussi, chaque semaine, il y a un site de plein air. Là, c'est sous forme de balade le long des côtes d'Armor à la découverte des animaux du littoral, les petits, les gros, avec un guide qui sait tout sur chacun d'entre eux. Bottant en caoutchouc, recommandé.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
On continue ce samedi en France à la découverte de sites originaux qui ont l'avantage de coupler, à mon avis, la beauté d'un lieu avec une histoire qui concerne ceux qui y vivent. Alors cette fois, il s'agit d'animaux, parfois tout petits, et puis Gavin Clemente Ruiz qui va nous parler de ce lieu m'affirme que les animaux du littoral des Côtes d'Armor nous apprennent pas mal de choses. Alors, un exemple. Allons, pour
je
commencer.
L'affirme, William, en effet, haut et fort. Saviez-vous, William, que la moule est capable de supporter 90 fois son propre poids et qu'elle peut rester accrochée à son rocher,
même
par forte tempête?
Ça, on le sait, ça.
Mais pourquoi et comment? C'est ça qui m'intéresse.
Oui, bonne question.
Tout
alors
ça, c'est grâce à la colle qu'elle produit. Et les scientifiques ont prouvé qu'elle était l'une des colles les plus puissantes du monde. Et ils tentent aujourd'hui de la reproduire. C'est ce genre d'histoire que Florian Barga, à Saint-Quay-Portrieux, va nous raconter.
Ah bon, bah ça tombe bien, on l'a en ligne. Bonjour Florian.
Bonjour.
Alors, comment vous est venue l'idée de ces balades? C'est des balades de votre enfance et vous vous êtes dit, tiens, il faudrait que tout le monde les connaisse ou pas?
Alors non, pas tout à fait. C'est plutôt mes balades universitaires qui m'ont amené sur les estrans.
Oui.
C'est ça. Et mon souhait, voilà, de pouvoir partager toutes ces connaissances avec le public et pas forcément de s'intéresser aux noms latins et aux choses compliquées sur les espèces, mais finalement de les rendre plus sympathiques et plus faciles à retenir avec des illustrations assez concrètes.
Oui, mais alors ça concerne pas simplement les plus jeunes d'entre nous, parce que moi, il y a des tas de choses que je ne savais pas. Ça concerne aussi les adultes, donc on y va en famille, quoi.
Voilà, tout à fait. On fait des sorties, sur le littoral, et puis on va partir à la rencontre de ces espèces, et puis de leurs super pouvoirs.
D'accord. Alors, on a donné un exemple de super pouvoir, le coup de la moule qui colle à son rocher. Vous avez d'autres exemples?
Oui, tout à fait. On a un exemple bien connu maintenant qui est celui des dents de la patelle. Donc la patelle qui est un petit escargot marin également,
oui,
qui va brouter les algues sur les rochers et donc qui, pour faire ça, a des dents extrêmement solides, puisque nous, on ne pourrait évidemment pas frotter nos dents sur les rochers, tout au long de sa vie.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec les dents de ces animaux-là?
Alors du coup, les scientifiques s'intéressent beaucoup à cette matière-là, puisque c'est la matière naturelle la plus solide au monde, proportionnellement à sa taille, bien évidemment. Et du coup, notamment, les scientifiques s'y intéressent en vue de, pourquoi pas, construire à terme des coques de bateaux plus résistantes ou des fuselages d'avions également plus résistants.
D'accord. Et quand vous longez les côtes, c'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait.
Dans des embarcations qui peuvent contenir combien de personnes?
Ah non, alors nous, on est à pied. On se balade vraiment en bord de plage quand la mer descend. Et on va aller rencontrer ces espèces qu'on retrouve vraiment sur la côte.
Ah d'accord, je me disais, tiens, il ferait peut-être un petit tour en bateau un jour, c'est pas plus mal quand il fait beau, ça arrive.
Ouais, ça peut être très sympa, d'autant que l'eau est assez magnifique.
Bon. Très bien, Florian, merci beaucoup pour les super pouvoirs, on tâchera de venir dans le coin. Merci Florian.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, à l'office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, on peut s'inscrire? Il faut s'inscrire, non?
C'est ça, exactement. Ça coûte 9 euros pour les adultes et 5 euros jusqu'à 14 ans. Ce sont des petits groupes, alors Florian l'a dit.
Moi j'avais imaginé qu'ils étaient sur une grande barque et puis on longeait. Bon, c'est pas tout à fait ça. Et ils sont à pied, quoi. Bon.
Mais presque.
C'est bien aussi.
Vous pouvez prendre le bateau après, si vous voulez, William.
Ouais, ouais.
Mais prévoyez quand même une heure à deux heures pour faire la balade. Et des bottes, hein, vous l'avez dit. Et
des bottes en caoutchouc ou basket, oui.
Et crème solaire aussi. Parce que
crème solaire.
C'est beau en Bretagne, on l'oublie parfois. Ça, c'est pour me faire plein d'amis.
Un hôtel sympa,
c'est le Kermor Préférence, à Saint-Quay-Portrieux précisément. La nuit pour deux personnes, c'est 89 euros. Alors, de l'extérieur, vous verrez, on dirait un palais oriental. Mais les chambres, elles sont dans un bâtiment moderne, juste à côté, et elles surplombent la mer. C'est absolument magnifique.
Vous allez faire le même coup que tout à l'heure, mais un palais, Gavin, ça doit coûter cher. Oh non, William.
Non, je ne le fais pas à chaque fois, sinon c'est pas drôle.
Bon, d'accord. 89 euros, ça va à peu
près. Ça va, c'est correct.
Une chambre pour deux personnes.
Pour un petit week-end en amoureux au bord de l'eau.
D'accord, c'est toujours en amoureux, ou c'est pas un week-end sportif?
Si on
peut être les deux. Hein.
Ou scientifique, un week-end scientifique. On va aller voir Florian, il va nous raconter les super pouvoirs des animaux, et puis ensuite, vogue le bateau.
D'accord. Pour les réseaux sociaux, vous consultez et vous aurez tout le détail de cette balade à partir de Saint-Quay-Portrieux. On récapitule maintenant les quatre sites présentés pour ceux qui sont arrivés pendant le film.
Alors, nous avons visité le chantier d'un château fort du 21e siècle à Guédelon en Bourgogne. Il est encore en construction et il se visite. Nous nous sommes promenés ensuite dans les rues de la toute nouvelle ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Vichy.
Ouais, à visiter à tout prix, oui.
Dans le sud, à Roquebrune-Cap-Martin, nous avons découvert la villa E1027 et les cabanons de Le Corbusier. Et enfin, on vient de terminer par Cinq et Portrieux en Bretagne, où les animaux du littoral nous ont livré quelques-uns de leurs secrets.
Chaque semaine, quand on a un peu de temps, on part d'une idée ou d'un livre ou d'une expo qui permet de découvrir des aspects de notre France. Qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine ?
Alors cette semaine, j'ai retenu la date du 17 septembre. Pourquoi ? C'est la semaine prochaine. Je vous propose, j'invite tous les professeurs qui nous écoutent à aller voir le site des Enfants du Patrimoine. C'est quoi ? Ce sont des opérations qui sont organisées par les ministères de l'Éducation et de la Culture. C'est gratuit, c'est fait pour sensibiliser les enfants, la veille des journées du patrimoine qui seront le 18 et le 19 septembre prochain. On va tout découvrir sur l'urbanisme, l'environnement, le patrimoine, bien sûr, à travers des jeux de pistes, des ateliers, des visites. On peut s'inscrire en ligne sur le site, c'est gratuit. On va voir le site des Enfants du Patrimoine ou sur europe1.fr. Il reste encore plein de places, profitez-en, c'est gratuit. Tout ceci est parrainé, je vous le donne dans le mille, par Stéphane Bern.
Ça tombe bien, transition tout trouvé. Je vous signale que le samedi prochain, on aura une émission spéciale. Justement, puisque ce sont les journées du patrimoine, et nous on est un peu là pour ça de temps en temps, et ça tombe bien. Alors vous parliez de Mathieu Noël et de Stéphane, ben c'est dans un instant quoi, historiquement vôtre. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour vous faire découvrir donc quatre sites qui ont un lien avec le patrimoine. Merci à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau et à vous, Gavins Clemente Ruiz. Madame, Monsieur, à samedi prochain, 15h, bon après-midi sur Europe 1.